Bonjour Pierrick, vous êtes programmateur au brise-glace ?
Bonjour, tout à fait, je suis programmateur au brise-glace.
En quoi consiste votre métier ?
Comme le nom l'indique, à programmer les groupes et les artistes qui vont passer au brise-glace et notamment dans la grande salle, globalement de la direction artistique.
Quelles sont vos formations si vous en avez pour ce métier ?
Quelle est ma formation pour ce métier ? Aucune. Non, grosso modo, j'ai fait une formation des études supérieures en commerce et en marketing, en direction de projet culturel. Mais il n'y a pas de formation pour la programmation, à proprement parler. Il n'y a pas de diplôme d'études supérieures pour programmer.
Pourquoi avoir choisi ce métier de programmateur ?
Parce que j'estime que quand on travaille dans la culture ou dans le spectacle, bah déjà c'est une passion. Puis après, le cœur du métier et ce pourquoi je fais, j'ai décidé de travailler il y a 15 ans en arrière dans la culture et dans le spectacle, c'est pour ce qui se passait sur scène. En gros, ça fait 2 ans que je programme. C'est pour moi, en tout cas, l'objectif, c'est de choisir et d'arriver à proposer des artistes et des spectacles au public. Pour moi, c'est, comme je te disais, le cœur du métier et ce pourquoi, en fait, j'ai toujours voulu faire ça. Enfin, travailler en tout cas dans le spectacle et dans la musique.
Quels sont vos horaires et sont-ils contraignants ?
Alors, oui, après moi je trouve pas que ce soit une contrainte. C'est induit quand tu travailles dans le spectacle et dans la musique. Tu sais que tu vas faire beaucoup d'heures, tu sais que tu vas travailler le week-end, tu sais que tu vas travailler tard. Tu vas rentrer tard le soir chez toi et que potentiellement tu peux repartir tôt le matin. Après voilà, on a des horaires qui sont flexibles et aménageables. Donc ça passe par effectivement des grosses périodes de rush et de travail, comme là en l'occurrence sur le festival Hors Piste, et aussi par des périodes de récupération assez importantes. Par exemple, il y a une bonne partie de l'équipe pendant l'été qui est quasiment 6 semaines, des fois plus, 2 mois en vacances, parce que pendant toute l'année, effectivement, on fait beaucoup d'heures. Mais ça va avec le job. Voilà.
Cela fait combien de temps que vous êtes au brise-glace en tant que programmateur ?
Alors, ça fait un peu plus de 2 ans que je travaille sur la programmation. Ça fait pas très longtemps que je suis officiellement programmateur. Et plus globalement, ça fait 6 ans que je travaille au brise-glace. Donc je suis rentré au brise-glace il y a 6 ans et demi. Je m'occupais de la communication avant. Il y a 2 ans, j'ai commencé à travailler sur la programmation artistique.
Quels sont vos avantages en travaillant au brise-glace ?
Mes avantages, c'est un avantage qui n'est pas loin d'être léger. J'ai l'énorme chance de faire un boulot qui me passionne. Et pour lequel je pourrais travailler 50 heures, 60 heures par semaine sans que ça me pose de problème. C'est ce que je fais des fois. On se fait des semaines de 50, 55 heures. Là, en l'occurrence, sur le festival, je pense qu'on va arriver aux 60 heures semaine. Je fais un boulot où j'ai pas l'impression de travailler, si ça peut te donner une idée. Et ça, c'est, je trouve en tout cas, le plus gros des avantages. Après, il y a d'autres avantages matériels. C'est que j'adore la musique, j'adore les concerts. Et forcément, mon métier me donne la possibilité d'aller sur des concerts et sur des festivals sans rien payer. Parce que c'est mon taf, c'est mon job. Donc voilà, il y a très peu de concerts que je fais, de festivals dans lesquels je vais où je paye. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà.
Comment se déroule le choix d'une programmation de festival ?
Comme je vous le disais tout à l'heure, pour le coup, là, sur le festival Hors Piste, je ne suis pas tout seul à programmer. On est plusieurs, il y a Vito, il y a Ludivine, notre directrice aussi. Bah, grosso modo, toute l'année, on voit des artistes. Comme je vous disais tout à l'heure, on fait des festivals plus ou moins professionnels dans lesquels on découvre des groupes. Ces groupes, derrière, on a envie ou pas de les proposer et de les présenter au public d'Annecy. Donc voilà, la programmation et la direction artistique d'un festival et plus globalement en fait de la saison culturelle au brise-glace, ça se passe comme ça. Tu vois des artistes, tu as envie de les présenter. Après, il faut que ça s'intègre dans une... Il faut déjà que tu aies la possibilité de le faire, parce qu'il y a des artistes qui sont concrètement intouchables pour nous, parce qu'ils sont devenus trop célèbres, parce qu'ils sont trop chers, et que nous, on est limité à notre jauge de 500 personnes. Donc ça, c'est la réalité économique et matérielle qui fait qu'on peut faire ou on ne peut pas faire certains artistes. Après, c'est de l'organisation. Il y a ce qu'on aimerait faire, la programmation ou la direction artistique idéale. Et après, dans ce que toi, tu as envie de faire, dans ce qu'on aimerait faire, il y a toutes les petites contraintes de planning, d'agenda, des groupes qui sont en tournée ou qui sont pas en tournée. Je parlais tout à l'heure de l'aspect matériel, de ce que peuvent coûter les groupes. Donc tout ça, en fait, ça vient contraindre les possibilités de programmation. Donc en fait, ça part toujours d'une volonté de présenter des groupes, un équilibre artistique. Là, en l'occurrence, sur Hors Piste, On est sur une édition qui est très rock indé, mais ça on l'assume, parce que c'est dans un petit peu dans l'ADN du festival. Et voilà, on a des groupes qu'on a envie de faire jouer, on leur propose de venir, ils peuvent pas. On articule, on construit les choses comme ça, en fonction d'un planning et de nos moyens. Après, sur la saison, l'équilibre, il est plus fin, c'est-à-dire qu'on se doit au brise-glace de défendre toutes les esthétiques, le rock, la pop, le hip-hop, enfin le rap, l'électro, le jazz, la world, le reggae, tout ça en fait dans une saison, sur la quarantaine de dates qu'on fait en grande salle, de dates payantes, c'est la contrainte. C'est pas une contrainte, mais c'est la contrainte principale d'équilibrer, de pas faire trop de métal, ou trop de rock, ou trop de rap, mais d'essayer de contenter tout le monde. Voilà comment ça se construit.
Comment repérez-vous les groupes qui n'ont pas de grande notoriété ?
Déjà via le web. Concrètement, parce qu'aujourd'hui, rien qu'à l'écoute sur des plateformes comme Spotify, Deezer, je vais pas parler de YouTube, mais déjà Spotify, Deezer, t'écoutes un groupe, forcément l'algorithme de Deezer, de YouTube, de Spotify te fait découvrir des groupes que tu connais pas. Après, on est tous passionnés de musique, quand on découvre un groupe, on se le fait écouter. Ça, c'est vrai pour toute l'équipe, c'est-à-dire que voilà, Fanny qui travaille à la communication, elle est en face de moi, ça arrive souvent qu'elle m'interpelle sur tel ou tel groupe. Donc déjà, entre nous et via le web, on découvre des choses. Ensuite, il y a beaucoup de groupes en fait, qui est de tourneurs, c'est les agents des artistes, qui nous écrivent pour nous faire découvrir en fait, des groupes qu'on ne connaîtrait pas. Ça, c'est très compliqué. C'est impossible, par exemple, de tout écouter. Je reçois, moi, à peu près plus d'une centaine de mails par jour d'artistes et d'agents d'artistes qui m'écrivent pour que j'écoute leur musique. J'ai même pas le temps de leur répondre parce que c'est... Enfin, des fois, j'ai... Voilà, c'est ne serait-ce que lire et ouvrir la centaine de mails par jour, c'est un temps phénoménal. Mais ça, c'est aussi une autre manière, en fait, de découvrir des artistes qu'on connaîtrait pas. Donc, il y a nous, ce qu'on se refile entre nous, ce qu'on peut écouter sur le web, on découvre sur le web, les artistes et les agents d'artistes qui nous écrivent, et aussi après, surtout j'ai envie de dire, les découvertes qu'on peut faire sur les festivals. Voilà. Des festivals professionnels, il y en a quand même pas mal. Les principaux et les plus connus en France, c'est le Printemps de Bourges, voilà, à Bourges, les Transmusicales de Rennes, à Rennes, le Mama qui est à Paris. Voilà. Il y a d'autres festivals, après je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que des festivals qui sont des rendez-vous professionnels en fait, pour les programmateurs et pour les tourneurs, pour faire découvrir des groupes, il y en a quand même pas mal. J'entends Musilac. Musilac, c'est pas un festival pro. C'est déjà un gros festival sur lequel il y a des grosses têtes d'affiche, et même les plus petits groupes qui jouera à Musilac par exemple, ils sont trop, déjà souvent trop gros en fait pour venir jouer au brise-glace. Je veux dire que Musilac, le Paléo Festival de Nyon par exemple, ce sont déjà des festivals qui sont pour des artistes qui sont confirmés, qui sont déjà en tête d'affiche.
Selon quels critères sélectionnez-vous les groupes ?
L'originalité, j'aime pas parler de qualité artistique parce que là, je trouve que la qualité, c'est pas un terme qui est adapté en fait à l'art. Je préfère parler d'exigence artistique, mais bien sûr, il faut que les musiciens sachent jouer, leur originalité, et puis si ça vibre ou pas. L'avantage des festivals, par exemple, c'est qu'on voit les groupes sur scène. Nous, ce qu'on donne à voir au public, c'est pas un album ou c'est pas une écoute sur internet, c'est des artistes qui sont sur scène et qui défendent quelque chose sur scène, ce qu'on appelle le spectacle vivant. L'avantage de voir les groupes en festival, c'est que d'un, on peut voir ce que le groupe il a dans le ventre sur scène, et ça c'est hyper important, et de voir aussi comment le public réagit. C'est le critère principal. Après, il y a des groupes qui sont meilleurs techniquement, avec des musiciens qui sont très bons techniquement, qui sont des virtuoses. J'ai envie de dire, les gars, ils ont rien dans le ventre, ou ils ont rien à défendre, ou ils ont rien à raconter. Et à côté de ça, il y a des groupes qui sont peut-être un petit peu moins bons techniquement, mais par contre, il y a une originalité, il y a une authenticité, il y a quelque chose à défendre, c'est des projets qui sont habités. Et ça, pour le coup, quand tu défends une musique ou un propos artistique sur scène, quand t'as ça avec toi, c'est tout bénef. Après, il faut arriver à le montrer, à te faire connaître. Mais le critère principal, il devrait y en avoir un, c'est la manière dont le groupe se défend sur scène.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé de programmer un groupe que vous n'aimez pas forcément ?
Oui et non, c'est une très bonne question. Bien sûr, c'est compliqué en fait de programmer un groupe qu'on déteste. Je pense que c'est d'ailleurs pas possible. Programmer un groupe que tu détestes, même en tant que programmateur, ça me paraît complexe. Néanmoins, effectivement, ça m'est arrivé en 2 ans, même si j'ai pas une expérience folle en fait de programmation, de programmer des groupes. Clairement, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas ma cam. On programme des groupes de chansons françaises. Ça nous est arrivé au Gauvin Cerce, on a eu l'occasion de le faire. on trouvait que c'était opportun et qu'il y avait un public en face. Après, Gauvin Cerce, perso, j'écoute pas chez moi, j'écoute pas en voiture. Voilà, ça arrive. On est là pour des artistes et aussi pour un public, sans tomber dans le clientélisme, c'est-à-dire vouloir absolument répondre à un besoin ou à des demandes. On est, comme je le disais tout à l'heure, on est quand même là pour essayer de contenter un maximum de personnes. Moi, j'estime que c'est impossible d'être passionné de reggae et en même temps que t'es passionné de reggae, d'être passionné de métal et en même temps d'être passionné de rap. Je parle vraiment de musique qui t'habite. Tu peux effectivement écouter du métal et du reggae, c'est possible. Je pense pas que tous les programmateurs adorent, par exemple, ce qu'ils programment. Ça m'est arrivé, effectivement, de programmer. Pas que j'aimais pas, mais en tout cas, que j'écoute pas ou que... voilà, tout parle moins. J'estimais que le groupe était bon, qu'il avait des choses à défendre, qu'il y avait aussi un public en face, ça c'est important. Ça m'est arrivé, ça m'arrivera, c'est sûr.
Comment se déroule la rémunération des groupes qui participent au festival ?
La toute première base, c'est ce qu'on appelle le coup plateau. Tous les musiciens en fait qui jouent sur le festival et au brise-glace, enfin la plupart en tout cas, sont des musiciens professionnels. J'entends par professionnel le fait qu'ils soient payés et rémunérés pour faire de la musique, pour faire leur métier. Donc ça veut dire en fait que chaque musicien sur scène est payé. Donc chaque musicien sur scène coûte quelque chose. Le coup plateau, c'est le nombre de musiciens qu'il y a dans le groupe et de techniciens qu'il y a dans le groupe multiplié par ce que chacun des musiciens coûte. Ça va te coûter par exemple, je sais pas, 1000, 1500, 2000 euros pour payer les gens. Après, il faut rajouter les transports. Ça donne ce qu'on appelle le coup plateau minimum pour faire tourner un groupe. Nous, on travaille avec des agents, des tourneurs qui commercialisent en fait les groupes. Ok ? Ils savent pertinemment que pour faire jouer un groupe au brise-glace ou ailleurs, ça coûte 1500 euros. Plus les transports, 200 euros, voilà, 1800 euros. Donc ça, c'est la base. À côté de ça, la base est souvent basée sur un minimum syndical, l'équivalent du SMIC pour les intermittents du spectacle. Mais après, donc ça c'est la base, après, ce qu'il faut savoir, c'est que un artiste, quand il s'appelle l'homme pâle, par exemple, bah quand il a commencé il y a quelques années en arrière, les premiers concerts qu'il faisait, parce qu'il n'était pas connu, il devait toucher peut-être 80 ou 100 euros par concert. Aujourd'hui, l'homme pâle, il vend des milliers de disques, il remplit des zéniths. Et forcément, à un moment, il a demandé à son tourneur de ne plus toucher 100 euros par concert, mais peut-être 500 ou 1000 balles. Et donc forcément, et ses musiciens pareil, les techniciens pareil, donc forcément, ça augmente le coût global en fait, du groupe sur scène. En gros, il y a une base en fait, qui est très pragmatique de ce que coûte le groupe. Et après, en fonction de la notoriété du groupe, comme par hasard, prix peut augmenter. Ça m'est arrivé en fait de discuter avec des tourneurs de combien pouvait coûter un groupe. On va parler très concrètement. Le prix qui m'a été annoncé par exemple pour un groupe X en début d'année dernière, c'est-à-dire il y a un an, alors que le groupe venait de sortir son album et qu'on ne savait pas encore si l'album allait fonctionner ou pas, il a fallu qu'on paye finalement 50% ou 60% plus cher pour programmer le groupe 6 mois après. Parce que, en fait, entre-temps, l'album avait cartonné. Personne n'est vu. Les tourneurs savent très bien qu'ils sont sûrs qu'un groupe fait 150 ou 200 personnes, ben, ils vont le vendre tel prix. Qu'à un moment, en fait, si les salles sont persuadées de remplir deux fois plus de monde, trois fois plus de monde, elles vont être prêtes aussi à lâcher plus d'argent. Parce qu'au final, c'est un équilibre. Même si nous, on n'est pas là pour faire de l'argent sur les dates, on essaye quand même de défendre un certain équilibre budgétaire. Voilà. Je vais avoir plus de facilité à acheter un groupe 4000 ou 5000 euros si je sais derrière que le groupe va ramener 500 personnes au brise-glace à 15 euros ou 16 euros de moyenne de place. Si je sais pertinemment que le groupe, parce qu'il est émergent, parce qu'il est indépendant ou qu'il est sur une niche artistique, si je sais que le groupe, et je suis persuadé que le groupe ne fera pas plus de 150 personnes, c'est sûr que je ne vais pas aller lâcher 5000 euros. Je vais être plus sur 1000. 1005, voilà. Il y a un équilibre entre vraiment ce que coûte le groupe et, après, je ne devrais pas parler comme ça, et la valeur marchande qu'il peut avoir, c'est-à-dire ce que le groupe pèse derrière en termes de public. Voilà, ça s'équilibre comme ça.
D'accord, et eh ben merci.